OK, bonjour Paul.
Bonjour.
Ben, je pense que ce serait à moi de te présenter. On se connaît depuis fort longtemps, mais Paul Gosselin, c'est quelqu'un qui a fait un bac et une maîtrise en anthropologie.
Oui.
La maîtrise sur un sujet assez particulier, puis je dirais même un sujet qui était avant son temps à l'époque, parce que tu as fait quoi ta maîtrise au début des années 80?
Exactement, oui.
Puis déjà, tu avais ciblé comme sujet la question de la définition de la religion, comment
oui.
ça pouvait s'appliquer à d'autres formes de mouvements sociaux que ce qu'on croyait être à l'époque de la religion pure et simple.
Oui, oui.
Okay.
Oui.
Par la suite, tu as travaillé dans le milieu universitaire, tu as eu des contrats
oui.
Avec des chercheurs, différentes personnes comme ça.
Mm-hmm.
Et puis, plus récemment, il y a quelques années, tu as démarré un site web.
Oui.
Tu as participé au démarrage, c'est-à-dire tu as démarré Catacombes avec nous autres, OK,
oui.
Au début. Donc, même, je pense, tu avais été l'initiateur. C'est toi qui avais trouvé le nom, si je me souviens bien.
Oh, ça se peut, là.
Tu avais été l'initiateur de l'idée, là, en tout cas, peu importe. Tu as travaillé très fort sur Catacombes pendant plusieurs années au début. Puis par la suite, tu as démarré un autre site qui s'appelle Samizdat,
oui, oui.
dont tu es le principal responsable, là,
mm-hmm.
qui s'occupe pleinement de ça, puis qui dure encore, qui est toujours en fonction à l'heure actuelle. Ça fait combien d'années, Samizdat?
Depuis 2000. Fait que ça va faire 5 ans bientôt, là. Ouais.
OK. Donc, et Samizdat a fait un petit aussi, a produit quelque chose d'autre, qui est les éditions Samizdat, c'est
ouais,
ça?
C'est exact.
OK, donc, qui est une maison de publication.
Exactement.
Les ouais. orientations de éditions Samizdat, tu dois avoir un but, tu as donné une mission.
Dans le moment, là, c'est un peu embryonnaire, là, on a deux livres à l'actif, là, fait qu'il y a un côté intellectuel, là, c'est des livres de réflexion, là, comme le premier livre, là, Hors du ghetto, là, qui touche, ça donne un peu une perspective évangélique sur les arts et la culture. Mais il y a un autre volet, là, c'est carrément là, des œuvres artistiques faites par des gens qui sont inspirés par les valeurs et la vision du monde judéo-chrétienne. Fait que ça peut être des pièces de théâtre, ça pourrait être de la bande dessinée. Pour le moment, on a une pièce de théâtre là, qui a été publiée, mais ça pourrait être éventuellement des romans, toutes sortes de trucs. Là, Samizdat est un peu en démarrage. Et puis, bon, il y a un autre livre qui est en voie. Là, c'est une réflexion sur les idéologies postmodernes.
On peut quand même dire que ces deux livres-là s'attaquent encore une fois à des sujets qui sont assez vastes et qui portent à controverse, en tout cas définitivement, celui que tu es en train de faire, La fuite de l'absolu, je pense, c'est ça le titre,
ouais.
c'est ça.
Ouais.
C'est quelque chose de, comment je dirais ça, de très fondamental, c'est un débat très fondamental dans la société. En fait, c'est un débat qu'on retrouve à l'intérieur d'un paquet d'autres polémiques dans la société.
Ouais.
C'est quoi les notions de base, c'est ça? C'est quoi,
ouais.
c'est quoi les fondements de l'idéologie ou de la civilisation occidentale?
Oui, c'est ça, parce que actuellement dans les médias, et on a beaucoup maintenu un peu une définition de la religion qui date enfin là, du 19e siècle. Là. Une définition où que la religion est liée par tout ce qui touche au surnaturel, et puis tout le reste, c'est pas de la religion. Mais finalement, là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les en sciences sociales, on s'est beaucoup éloigné de ce genre de définition-là, étant trop simpliste. Et puis finalement, la religion, ce qui est considéré comme religion, c'est tout ce qui donne sens à l'existence. Fait que si on prend ce genre de prend ce type de définition de la religion-là, à ce moment-là, ça devient quelque chose de beaucoup plus large, qui peut toucher à des phénomènes comme le marxisme, par exemple, le communisme, ou à d'autres mouvements, là, comme les idéologies postmodernes, que je vais justement m'attaquer dans mon deuxième livre, là, Le fuite de l'absolu.
Quand tu dis m'attaquer, est-ce qu'on peut penser que moi, je dirais ça, t'es pas nécessairement favorable à la façon dont on voit certaines idéologies postmodernes?
L'intérêt, en fait, de la question, là, c'est que je vais justement utiliser des moyens que les postmodernes utilisent, là, les concepts de déconstruction, mais je vais les appliquer justement à l'approche postmoderne lui-même. Ça fait que c'est de la remise en question. Puis bon, évidemment, c'est pour les gens qui sont beaucoup influencés par ces manières de penser-là, vont évidemment peut-être trouver un peu difficile à digérer. Mais enfin, là, je pense que c'est des réflexions qui doivent se faire parce que bon, c'est des idéologies, des manières de penser aussi plus ou moins implicites qui sont largement diffusées dans notre société aujourd'hui. Et puis justement, là, un peu à la manière là, de Il y a un penseur américain, là, dont je, un sociologue
qui s'appelle Thomas Luckman,
puis qui dit, bon, il parle d'une question d'une religion invisible. Et puis nous, on, justement, je pense que dans notre société aujourd'hui, on a des religions implicites qui sont diffusées sans cogner à la porte. C'est pas comme un témoin de Jéhovah qui vient cogner à ta porte pour te vendre un truc ou quelqu'un, un Krishna là, sur le coin là, qui essaie de te vendre des trucs aussi. Là. C'est plutôt une religion qui est implicite, qui est véhiculée par les moyens culturels les grandes institutions en Occident. Ce qui fait que, bon, fait qu'il faut, je pense, reviser un peu notre façon de percevoir le religieux puis son influence.
OK. Puis quand tu dis ça, bon, évidemment, sa mise date, Catacombes, c'était des projets qui s'adressaient, je dirais, un petit peu plus en particulier au monde chrétien ou au milieu chrétien. Quand tu dis « on », est-ce que tu t'adresses spécifiquement à ce milieu-là chrétien ou tu penses que tu veux parler à un public plus large que ça?
Pour à la fois pour Samizdat là et puis en fait pour le dernier livre là Fuite de l'absolu là c'est vraiment des trucs qui s'adressent à un public plus large. Les gens qui vont lire ça vont dans le cas de Fuite de l'absolu ils vont se rendre compte assez vite que la personne qui rédige ça a un point de vue qui est influencé par la vision du monde judéo-chrétien. Mais il y a pas de cachette de ce côté-là, il y a pas de surprise, mais on se réfère à des penseurs comme Camus, Heidegger, Nietzsche, et puis les ouvrages de Charles Darwin, et puis toutes sortes de penseurs qui ont affecté, qui ont eu beaucoup d'influence en Occident, et puis qui sont, disons, qui font partie du patrimoine de l'Occident. Et puis je pense que ça peut rejoindre beaucoup de gens. Ça, et puis, bon, ça fait que là, il faut se lancer.
Si tu penses à des gens qui sont pas du milieu qu'on appelle le milieu chrétien, là, quand on parle de milieu chrétien, c'est pas juste les catholiques, là, on s'entend, là, il y a des évangéliques, en fait, c'est assez bizarre là, maintenant sur la planète, le milieu chrétien. Mais si on sort de ce milieu-là, OK, qu'est-ce que tu espérais comme réaction de la part de quelqu'un de, je dirais, d'intègre intellectuellement, là, qui a une certaine intégrité intellectuelle vis-à-vis les sujets que tu vas discuter?
Dans le cas de Fuite de l'absolu, par exemple, là, il y a une remise en question de la façon de voir le religieux. Notre génération qui est sécularisée se dit qu'elle n'a pas besoin de religieux. Mais là où se trouve le religieux, finalement, là, c'est sur le plan anthropologique, c'est une condition normale de l'espèce humaine. Tous ont besoin d'une explication. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Comment construire son identité? Toutes ces conceptions-là sont tirées d'une religion, d'une vision du monde qu'on peut aussi employer le terme. Là.
Mais est-ce que je t'interromps, tu traites d'aspects qu'on va associer habituellement à la psychologie. Normalement, on exclut ça de la définition de la religion. On considère que même que c'est des sciences pratiquement exactes, tout ça. Puis toi, tu voudrais dire que, en fait, ces champs de connaissances-là chercheraient à donner une réponse aux grandes questions existentielles.
Ah oui, c'est effectivement le cas. Il y a une façon de voir la chose. J'ai une citation que j'ai déjà, que j'aborde dans mon livre. Par l'anthropologue Marc Auger, un structuro-marxiste, du moins dans les années 80. Et puis Marc Auger, il inverse un peu une définition que l'anthropologue Clifford Geertz avait de la religion. Et il dit, Geertz disait que la religion est un système culturel. Et Auger, il dit, on peut aussi inverser ça puis dire que la culture est un système religieux. Donc, à partir d'un fondement cosmologique, une façon de voir le monde, on peut fonder toutes les questions d'éthique, de sociologie, de politique, de toutes les sciences, en fait, aussi, qui sont implicites, plus ou moins implicites, dans la façon de voir le monde que nous pose, avec les mythes d'origine, qu'une vision du monde peut avoir. Ça fait que ça permet de construire l'identité, construire le savoir aussi sur le monde qui nous entoure.
Quand tu parles de mythe d'origine, Ou on peut étendre la définition peut-être à dire explication de l'origine.
Oui, exactement.
Ça, conception de l'origine des choses. On commence à tapisser large, là, on tombe dans la physique, on tombe dans le Big Bang, évidemment dans la question de la théorie de l'évolution ou du modèle évolutionniste.
Oui.
Es-tu en train de tout relier ça à un phénomène religieux ou de dire qu'il y a un aspect religieux dans tous ces champs de connaissances-là?
Oui, effectivement, parce que ça peut paraître un peu étrange, mais dans le fond, chaque société... chaque culture a besoin d'une genre de façon de voir pour expliquer les grandes questions. D'où venons-nous? D'où vient le monde qui nous entoure, le cosmos? Et puis, ça permet d'établir la relation au monde qui nous entoure et aussi établir la connaissance. Comment on peut comprendre... c'est des choses qui sont tous liées. Même si, bon, la science en Occident a pris ses distances face à la religion, finalement, on regarde toutes les fondations de la science, bien, les gens qui ont fondé beaucoup, beaucoup de domaines de la science, très souvent, c'était des gens qui étaient des chrétiens croyants à l'époque, là, si on regarde, par exemple, au 16e, 17e siècle, et pendant assez longtemps, même au 18e, là. Mais ça fait que il y a un instinct un peu général dans l'humain, c'est de tenter d'intégrer son existence. C'est évidemment, on y parvient de façon plus ou moins cohérente, plus ou moins sporadique, soit sur le plan individuel ou sur le plan d'une culture, il y a toujours un peu des incohérences, mais la tentative d'intégrer tout le savoir dans une certaine façon de voir du monde, est toujours présent. On le voit aussi chez les musulmans qui tentent de régler des questions politiques, éthiques et même la science en termes de la vision du monde islamique.
Et puis justement, tu donnes un exemple qui choque beaucoup l'Occident. Quand on voit l'Iran et ce qu'on appelle les dictatures islamiques,
oui.
Ça choque l'esprit occidental parce qu'on a l'impression que tout est mélangé tout d'un coup. Mais dans le fond, ce que je comprends bien, ce que tu dis, c'est que c'est tout simplement une tentative d'intégrer une vision du monde.
Oui.
Mais ça voudrait dire que, dans le fond, l'Occident, même en voulant pas se le dire, fait la même tentative.
Oui.
Sauf que ça a un autre aspect.
Oui. Dans l'Occident, ça prend une autre forme. Là, l'Occident, le rapport à l'État, en fait, avec l'héritage judéo-chrétien en Occident, a fait que le rapport à l'État a toujours été un peu différent. Le christianisme, dès les débuts, ne s'est pas identifié à l'État. Comme dans le cas de l'islam, il y a un contraste assez marqué entre les deux. L'islam était presque immédiatement identifié à un État. Le prophète Mohammed était immédiatement à la fois leader religieux et leader politique qui gérait. Et puis les califes et tout ça ont toujours eu ce même genre de rôle-là. Tandis qu'en Occident, pendant longtemps, les chrétiens, pendant les trois premiers siècles du christianisme, n'avaient aucun accès au pouvoir, et puis même ils étaient persécutés. Et puis les chrétiens ne s'identifiaient pas à l'État. Même Jésus avait dit à l'époque où on voulait le faire, ouais, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ça fait qu'il y a toujours eu une distance entre la vision du monde judéo-chrétienne et l'État. Évidemment, par la suite, là, à partir de Constantin, les choses ont changé. Mais l'identification naturelle qui peut y avoir, comme c'est le cas dans l'islam, n'était pas là chez les chrétiens. Il y a eu une très longue période, évidemment, là, jusqu'à, en fait, à partir de la conversion de l'empereur Constantin jusqu'au début de la Réforme, où l'identification à l'État dans les milieux chrétiens était très forte. Et puis, par la suite, là, ça a décliné à partir du moment là, que les réformes ont pris une certaine distance, mais bien souvent, l'identification à l'État était encore assez forte. Et puis, par la suite, dans les milieux évangéliques, ben là, on se coupait de l'État beaucoup, de façon plus marquée. Ça fait qu'il y a une façon de... Tout ça, ça laissait un héritage qui fait qu'en Occident, ben l'État n'est pas vu comme religieux. C'est pas quelque chose de... C'est vu comme même quelque chose de mauvais que la religion puisse contrôler de façon directe l'État.
Mais là, tu es en train de dire quelque chose qui va sûrement surprendre, époustoufler bien des gens. Tu es en train de dire que la notion d'union entre l'État et l'Église, c'est pas une notion chrétienne. C'est une notion naturelle dans d'autres systèmes de pensée, mais chez les chrétiens, il y a toujours une séparation entre l'État et l'Église, alors qu'on accuse aujourd'hui le christianisme de vouloir, de par sa nature, de vouloir une union entre l'État et l'Église. Toi, tu es en train de dire que non, c'est exactement le contraire. Ben, ça voudrait dire que, dans le fond, toutes les poussées démocratiques, puis de liberté civile, puis tout ça, prennent naissance, dans le fond, dans la pensée judéo-chrétienne.
Oui.
Ben, je veux dire, je vais un peu vite, là, mais est-ce que c'est...
Oui, ça, c'est, disons, c'est une autre question quand même, là, mais effectivement, là, ça, c'est des choses. Et puis, bien souvent, ceux qui invoquent cette crainte-là, là, de voir le christianisme pouvoir avoir une influence sur l'État, finalement, là, c'est pour protéger des acquis idéologiques, là, qu'on peut-être on voudrait pas admettre, mais finalement, là, on a des groupes qui ont un certain accès à l'État, puis veulent maintenir des castes, là, qui veulent maintenir leur accès à l'État. Donc, ces gens-là vont invoquer ce spectre-là, mais finalement, sur le plan historique, c'est pas justifié.
Mais est-ce qu'on peut se permettre d'imaginer un corollaire qui serait qu'en fait, ceux qui accusent le christianisme de vouloir unir l'État et l'Église sont en train, eux, d'unir une certaine Église qu'ils veulent pas révéler à l'État.
Ouais.
Autrement dit, il y a une idéologie qui est en train de prendre le contrôle des États. Ce n'est pas une idéologie
c'est
chrétienne.
C'est un état de fait, en fait.
Autrement dit, il y a vraiment une symbiose religion-État qui est en train de se produire, puis elle se fait pendant qu'on accuse le christianisme de vouloir le faire.
Oui.
De l'avoir fait toujours dans le passé.
Oui, effectivement. Là, c'est lié aussi à la façon de concevoir la conversion. Là. C'est, disons, là, il y a un aspect un peu technique dans ça, mais chaque vision du monde, il y a une possibilité là, pour ceux qu'on définit comme non-croyants de pouvoir adhérer. Et puis, dans le cas du christianisme, cette adhésion a toujours été volontaire. Donc, les gens, on pouvait pas forcer, et puis ça, chez les chrétiens aussi, c'était une décision rationnelle, des gens qui étaient conscients là de leur choix. Et puis ça allait des conséquences. On voit où, dans les sociétés où cette conception de la conversion était largement diffusée, ça a eu une répercussion sur les libertés politiques et un peu générales aussi, même intellectuelles aussi là. Tandis que les religions où cette conception-là, où qu'on peut plus ou moins imposer pour des présupposés, sans ça, à ce moment-là, ça peut avoir une répercussion sur la démocratie, puis finalement là, faire décliner un peu là, les libertés. On a l'attitude qu'on peut imposer des présupposés sur les autres. Et puis ça a une répercussion sur la façon de voir la politique, puis... la manière que les jeux politiques
sont. Mais
quand
tu dis « on », tu parles des chrétiens ou de ceux qui sont en train de promouvoir une idéologie opposée au christianisme, dans le fond, en Occident?
Ben, dans le fond, là, les idéologies, par exemple, si on prend les idéologies modernes et postmodernes, là, les idéologies modernes là, sont les idéologies qui sont un peu les enfants là, du siècle des Lumières, où est-ce que c'est que la raison puis la science devaient nous conduire au progrès et puis au salut. Et puis les postmodernes, si on peut parler de façon très large, là, sans faire de trop de nuances, là, les postmodernes rejettent un peu cette notion-là de la raison comme une raison absolue. Là. Ils vont montrer que bien la raison, c'est une raison occidentale, c'est quelque chose de particulier à l'Occident. Et puis, toutes les libertés de la personne aussi sont des produits de l'Occident encore, qui sont spécifiques, mais fait qu'il y a un genre de rejet, puis aussi le concept de progrès aussi qui est vu comme un projet typiquement occidental encore. Donc, tous des trucs à déconstruire, et puis que finalement, là, le postmoderne va dire, ben chaque société a sa manière de voir le progrès, sa manière de voir les libertés de la personne, les droits de la personne, etc. Mais le postmoderne, chacun de ces le moderne et le postmoderne voient chacun le processus de conversion comme plus ou moins c'est pas nécessaire là, que l'individu ait un choix libre. On peut imposer des concepts, soit par l'éducation ou soit sur le plan, par exemple, dans le cas du communisme, où est-ce que c'est qu'on imposait par la rééducation, là, de façon très dramatique, là, des certains concepts. Et puis, fait qu'il n'y a pas nécessairement une obligation, étant donné que le postmoderne, surtout, est une religion invisible, qui se diffuse par toutes sortes de moyens culturels et éducatifs. Là, on impose des présupposés. On tente à imposer des certaines manières de voir sans que les gens aient conscience qu'ils sont en train de changer de vision du monde. Ils sont en train d'adopter des... Puis ça peut être par des moyens législatifs, comme on fait changer des conceptions, comme on a fait ici au Canada récemment avec la définition du mariage. On impose une certaine manière de voir les choses par des moyens législatifs. Et puis, il n'y a pas de droit de décider pour les gens ordinaires. La personne ordinaire n'a pas un choix. Ce qui fait que dans cette religion-là, ben, ça peut avoir, sur le plan de la démocratie, ça peut avoir une influence là, sur l'expression des droits démocratiques.
Mais il y a comme un paradoxe, là. Autrement dit, ce que je comprends, c'est que supposons que qu'il y a une religion postmoderne qui oui. se diffuse, OK, là, bon, j'embarque dans ton raisonnement, OK. Donc, tu dis que une caractéristique qui semble évidente, c'est que la conversion à cette religion-là, dans leur façon de voir les choses, n'a pas à être volontaire. On peut imposer des concepts. On peut imposer la conversion à une religion postmoderne. Okay? Oui. Puis donc, tous les moyens sont bons, là, législatifs, éducatifs, etc. Mais à quelque part, on fait cette conversion-là au nom, supposément, en tout cas, dans le discours officiel, au nom des droits et libertés,
oui,
des
oui,
libertés
exactement.
Civiles. Exactement. Mais la base des libertés civiles, c'est la démocratie puis le droit de choisir.
Oui.
Mais dans les faits, le processus est en train de détruire le droit de choisir.
Oui.
Ou en tout cas, de nier le droit de choisir.
Oui, exactement. Là, ça se fait au nom. C'est une situation bien ambiguë, bien paradoxale, en fait, parce que justement, on exploite ces droits-là pour imposer une certaine façon de voir les choses, que ce soit sur les plans éthiques, que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur à toutes sortes de niveaux, là, sur le plan même scientifique, par exemple, là, sur la question des origines. On nous invoque toujours que la majorité des scientifiques nous disent que, et puis là, il faut prendre ça à la lettre, là, que c'est certaines manières de voir, par exemple, la question des origines. Bon, il faut se fier là-dessus. Et puis, et tout ça, ça entraîne un processus où il faut faire acte de foi, finalement, vis-à-vis tous les présupposés qu'on nous diffuse au nom d'une tolérance ou au nom d'une certaine façon raisonner ou progressif, ou enfin, il y a tout un vocabulaire là, qui est développé pour transmettre des présupposés et de façon implicite, sans que les personnes aient finalement à dire. On nous demande pas, penses-tu que ce serait mieux finalement, le vrai débat est escamoté. On nous dit pas, regarde, bon, il y a telle vision du monde qui est présent et puis un autre, et puis compare ces présupposés-là et choisis celle qui te plaît le plus. Le débat est toujours présent, la transmission là, de données culturelles se fait toujours sur cette façon de voir est supérieure. Et puis on marginalise tous les autres discours par toutes sortes de moyens, soit par en intimidant ou en insinuant là, que ces gens-là sont pas crédibles. On mine la crédibilité de discours alternatifs. Et puis, ou sinon, on ignore là, ces discours-là. Et puis, on oblige, on transmet une façon de voir que l'on dit tolérante, que l'on dit progressiste, que l'on dit etc., etc., etc.
OK, excuse, on coupe deux secondes.
Oui, oui, oui.